Il y a 4 ans, l'atelier des médias s'était délocalisé à Istanbul, en Turquie, afin d'enquêter sur la liberté de la presse et la liberté d'expression dans ce pays, alors 154e sur 180 dans le classement mondial de Reporters sans frontières. Nous avions découvert un État qui emprisonnait des journalistes, qui censurait Internet et instrumentalisait les outils d'information. Face à lui, il y avait encore des individus, des institutions, des journaux qui luttaient pour le droit des citoyens de ce grand pays à une information honnête et de qualité.
Aujourd'hui, on évalue à plus de 50 le nombre de journalistes et d'employés de médias emprisonnés. Nous avons toujours plus de 20 articles du code pénal qui restreint le travail des journalistes. Par exemple, la diffamation ou l'insulte a une définition si vague que le seul fait de critiquer ou d'ironiser la politique du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan fait que le reporter ou le chroniqueur passe devant les tribunaux et est passible de prison, toujours, malheureusement.
C'était donc en 2014. Et sincèrement, rien à l'époque ne laissait espérer d'amélioration. Rien non plus ne permettait de présager que la Turquie s'enfoncerait plus nettement encore. Aujourd'hui, les témoins que nous avions rencontrés en 2014 sont soit derrière les barreaux ou fraîchement sortis de prison, soit exilés, soit reconvertis dans la propagande pro-Erdogan. Le régime de ce président tout-puissant, qui jusqu'alors dérivait tranquillement, a choisi d'effectuer un virage net en direction de l'autoritarisme et de la dictature. Ceci à la faveur d'un événement qui s'est déroulé dans la soirée et la nuit du 15 juillet 2016.
Hier soir, vers 22h, des avions de chasse survolent Ankara, la capitale, à très basse altitude. Des hélicoptères ouvrent le feu sur certains services de sécurité qui répliquent. À Istanbul, les tanks se mêlent à la circulation. Les militaires investissent les ponts, prennent position à l'entrée des aéroports, instaurent le couvre-feu et font lire un communiqué à la télévision.
L'ordre séculaire, démocratique, social et constitutionnel sera bientôt rétabli.
Des militaires, mains au-dessus de la tête, qui évacuent ce pont sur le Bosphore. Les derniers soldats putschistes, sortis de force de leur char, par une foule en colère. Le jour se lève sur Istanbul. La tentative de coup d'État militaire vient d'échouer.
Kadri Gürsel est journaliste pour Cumhuriyet. Il fait partie de ces irréductibles qui, malgré l'acharnement du régime de l'AKP, continuent d'user publiquement de leur liberté d'expression.
Le coup d'État échoué a offert une opportunité au pouvoir autoritaire pour renforcer sa tutelle et son joug sur la société, sur l'opposition, sur la presse. Et des vagues de répression se sont suivies l'un après l'autre.
Turquie, ils ont tué le journalisme sans tuer les journalistes. Entretien avec Kadri Gürsel, journaliste et écrivain. C'est un atelier des médias signé Camille La France. Réalisation Simon Decreuse.
Suratıma cemi konağı tutmaz. Suratıma cemi konağı tutmaz. Oğlun da pek küçük, yerini tutmaz. Oğlun da pek küçük, yerini tutmaz.
Je suis Kadri Gürsel, je suis journaliste. Je fais ce métier depuis plus de 32 ans. J'ai été dans les années 90, le correspondant de l'agence France Presse basée à Istanbul. Mais autre que ça, j'ai toujours travaillé pour la presse turque et je suis chroniqueur depuis plus de 10 ans. Actuellement, j'écris pour le quotidien Cumhuriyet, le plus ancien du pays.
RFI.
Je crois que j'avais une inclination naturelle pour ce métier. Et puis, comme j'étais politisé quand j'avais 16-17 ans au lycée de Galatasaray, le lycée francophone, et j'avais été arrêté et mis en prison à cause de mes activités politiques de gauche, à l'époque avant le coup d'État de 1980, j'étais dans un mouvement de jeunesse de la gauche. Et puis donc on m'a arrêté et puis j'étais aussi condamné. J'ai passé 3 ans, 10 mois en prison, entre 18 ans et 22 ans, dans diverses prisons à Istanbul. Puis la condamnation était classée comme un délit contre un crime commis contre l'État. Et à l'époque, ceux qui étaient condamnés pour avoir commis des crimes contre l'État étaient aussi privés d'avoir accès aux études supérieures. Notamment, ils n'avaient pas le droit de faire des études à l'université. C'était une violation de la Constitution, même leur Constitution, que les généraux ont rédigée.
En 1982 ?
En 1982, oui, car c'était la violation de l'article qui définissait l'égalité des citoyens. Donc, mais quand même, ça, c'était comme ça à l'époque. J'ai été exilé aussi à Ankara pour y passer 5 ans. J'ai commencé en 1984 et en 1988, cette peine avait été déjà abrogée. Donc, j'ai commencé le journalisme quand j'étais en exil à Ankara. Et puis, après que l'hebdomadaire où j'ai commencé à apprendre le métier avait été fermé à cause des difficultés financières, donc j'ai pu rentrer chez moi à Istanbul et j'ai commencé à Cumhuriyet. Depuis le début, mon intérêt était les relations internationales, la politique étrangère. J'ai été reporter au desk étranger à Cumhuriyet, puis j'ai été éditeur dans un quotidien. Avant de rejoindre l'agence France Presse, la vraie école pour moi, pour plusieurs aspects, c'était l'agence France Presse. À l'agence, je peux dire que j'avais les moyens d'apprendre le journalisme en l'effectuant. Le métier, selon les standards internationaux, j'ai rejoint le groupe Milliette en 1997 et j'y suis resté avant d'être licencié pour un tweet en juillet 2015.
Le tweet en question était une critique sévère de la politique complaisante du président Erdogan vis-à-vis du groupe État islamique. Il avait été envoyé au lendemain d'un attentat très meurtrier perpétré à Suruç, au sud-est du pays, le 20 juillet 2015 et attribué à Daesh. Les 140 caractères pianotés par Kadri Gürsel et Fatal à son emploi faisaient référence à un message de condoléances adressé par le président Hollande au président Erdogan.
Alors le tweet était: il est honteux que des responsables étrangers appellent la personne qui est la principale responsable du terrorisme de l'État islamique en Turquie pour lui présenter des condoléances après l'attentat de Suruç.
Vous comprendrez donc que notre invité du jour n'a pas la langue dans sa poche. Quelques mois après son licenciement, Kadri Gürsel a rejoint Cumhuriyet. C'était en mai 2016, 2 mois avant le coup d'État manqué du 15 juillet.
À Cumhuriyet, j'ai pas eu d'autres ennuis en tant que chroniqueur, mais il y a eu une tentative de coup d'État, et après cette tentative de coup d'État, par les gulenistes, le régime s'est durci contre toutes sortes de critiques, contre le mouvement kurde, contre la gauche, contre les journalistes, les médias, contre tout, contre la société civile. Donc la répression s'aggravait de jour en jour. Un jour, je me suis réveillé, c'était le 31 octobre 2016, et puis dans la matinée, mon téléphone a sonné, et un ancien ami me posait la question si j'étais sain et sauf. Moi j'ai dit pourquoi, et il m'a dit il y a en ce moment-là, il y a une opération, plusieurs gardes à vue contre Jumhuriyet. Moi j'ai dit non, il n'y a rien, j'étais pas visité. Donc j'ai appris que presque tous les dirigeants, sauf quelques-uns, parce que tous les dirigeants de la fondation de Jumhuriyet avaient été placés en garde à vue, et aussi le rédacteur en chef des chroniqueurs. Après avoir amené mon enfant à l'école, je suis parti au locaux du quotidien. Puis on m'a appelé de chez moi, et j'ai appris que la police était chez moi et faisait une fouille et voulait que je me rende. Et je suis parti chez moi avec, étant accompagné par deux avocats. Et on m'a placé aussi en garde à vue. J'ai rejoint mes camarades dans la section antiterroriste du commissariat à Istanbul, du quartier général à Istanbul. Et puis c'est comme ça. Puis on nous a mis en prison pour être enfin libérés après 11 mois. Donc le procès a été finalement terminé le 25 avril. Et j'ai été condamné à 2 ans et demi de prison.
À vos côtés, il y a certains de vos confrères qui ont été condamnés à des peines encore plus lourdes, jusqu'à 7 ans de prison.
7 ans plus, voilà. Comme Ahmed Chouk, par exemple, ou bien Aknat Alay, le directeur exécutif de la fondation, et aussi le rédacteur en chef, Moulay Sabounjo, sans oublier un avocat, Blantoutkou, qui avait été aussi condamné à 7 ans de prison.
Quelle est l'accusation qui a été retenue contre vous ?
Ah, c'est une accusation assez ridicule. Hein. C'est aider une organisation terroriste délibérément et en toute volonté, sans en être membre.
Et alors, quelle organisation terroriste ? Est-ce qu'elle est nommée ?
C'est FETEU. FETEU, c'est...
Donc, les Gulenistes ?
Les Gulenistes, mais c'est l'acronyme, c'est FETEU. C'est baptisé par l'État, c'est FETEU. C'est pas... l'acronyme que les Gulenistes utilisent pour eux-mêmes, car ça veut dire l'organisation terroriste fétoulahiste.
Alors Fethullah Gulen, c'est un prédicateur qui a longtemps été l'allié du pouvoir, son complice du pouvoir de l'AKP, et qui est exilé aux États-Unis et qui est accusé d'être l'instigateur du dernier coup d'État.
Fethullah Gulen, c'est un leader d'un culte religieux, un mouvement sociopolitique islamique avec une culture politique et une culture de culte secrète qui avait pour but depuis plus de 40 ans de s'implanter dans les instances de l'État, notamment dans la police, dans la justice, dans l'armée, mais aussi dans d'autres instances comme le ministère des Affaires étrangères, les services de renseignement. Et ce mouvement était assez étendu, tout en ayant des réseaux sociaux dans toute l'Anatolie.
Et dans le monde, avec des écoles.
Et aussi dans le monde, avec des centaines, des milliers d'écoles, d'universités. Leur engin principal de recrutement, c'était l'éducation. Et ils sont devenus des facteurs partenaires de coalition avec les AKP.
Jamais le parti AKP au pouvoir depuis 2002 en Turquie n'avait réalisé un tel score, près de 50% des suffrages aux élections législatives, une troisième victoire consécutive qui permet à ce parti islamo-conservateur de gouverner seul le pays. Pourtant, Tayyip Erdogan reconnaît qu'il devra composer avec l'opposition et la minorité kurde pour pouvoir modifier la constitution, une opposition qui dénonce les dérives autoritaires du Premier ministre. Autoritaire du Premier ministre. Autoritaire du Premier ministre.
Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim günü
cube de béton de 4 étages entouré de beaux grillages, voilà le siège de Cumhuriyet. Le portail s'ouvre sur l'ordre d'un policier équipé d'une arme automatique. Il assure la sécurité du bâtiment et de la cinquantaine de journalistes qui y travaillent. Le quotidien a connu un regain de notoriété après l'arrestation et l'emprisonnement de deux de ses journalistes qui avaient publié des informations sur la fourniture d'armes par les services secrets turcs au groupe djihadiste en Syrie. Accusés d'avoir révélé un secret d'État, ils attendent leur jugement comme de nombreux journalistes turcs.
Vous écoutez l'atelier des médias. Cette semaine, Turquie, ils ont tué le journalisme sans tuer les journalistes. Entretien avec Kadri Gürsel, chroniqueur, journaliste et écrivain turc, emprisonné d'octobre 2016 à septembre 2017 dans le cadre de la répression du coup d'État manqué du 15 juillet 2016.
Vous, ces accusations, vous avez dit qu'elles étaient absurdes. Qu'est-ce qui prouverait, selon la justice, votre lien avec cette organisation ?
Bon, il n'y a pas de preuves déjà, mais il y a des éléments qui sont traités comme preuves. Alors c'est surréel, c'est vraiment scandaleux. J'ai été accusé d'avoir aidé aux gulenistes pour avoir reçu le SMS que je n'avais pas répondu du tout. Puis on m'a accusé aussi d'un article que j'ai écrit pour Cumhuriyet. C'était publié le 12 juillet 2016. Et dans cet article, je critiquais l'attitude autoritaire anti-tabac de M. Erdogan. J'ai titré « Erdogan veut devenir notre père ». Car cette attitude patriarcale, il faut que je définisse cette attitude. Monsieur Erdogan confisquait, peut-être confisque toujours, je ne sais pas, mais il confisquait très souvent les paquets de cigarettes et les cigarettes qu'il voyait être fumées, être portées par les gens, par son entourage, par les gens qui sont à ses alentours. Il les confisquait comme s'il était leur père. Et il leur demandait leurs promesses d'avoir cessé de fumer. Et aussi, ses aides écrivaient les numéros de portable de ces gens, des anciens, dits anciens fumeurs, leur nom et leur portable, pour qu'ils soient contrôlés, vérifiés, s'ils ont vraiment cessé de fumer ou non. Il y a plusieurs, comme ça, incidents que j'ai notés. J'ai archivé. Après, cette attitude paternelle, patriarcale, autoritaire, est devenue un aspect des relations internationales de la Turquie. Le 10 juin 2016, à Varsovie, pendant le sommet de l'OTAN, M. Erdogan voit le ministre des Affaires étrangères bulgare, Daniel Mitov, fumant dans le foyer. Alors il s'approche de lui et lui confisque le paquet de cigarettes et lui obtient sa promesse de cesser de fumer. Alors comme c'était devenu un élément de la politique étrangère de la Turquie, j'ai rédigé cet article car cette attitude, c'était vraiment attitude de père fondateur. Le père de la nation qui sait tout. Combien d'enfants il faut faire, quelle sorte de pain il faut manger, comment il faut donner naissance aux enfants, et aussi, faut pas fumer. À la fin de l'article, j'ai établi des liens entre fumer et brûler. Père autoritaire et enfant rebelle. Quand il y a un père autoritaire, contre ce père autoritaire qui fait du mal, il faut avoir un enfant rebelle. Et aussi, il y a un lien entre fumer et pour fumer une cigarette, il vous faut du feu. Et il faut brûler des allumettes, voilà. Bon, j'ai dit, pour stopper ce père autoritaire, il nous faut un enfant rebelle, mais ne soyez pas un enfant rebelle comme Bouazizi. devant le dictateur, le tunisien. Ne vous immolez pas, sauf allumez une cigarette et ne l'éteignez pas. Je n'ai pas dit fumez une cigarette. Ça veut dire fumer une cigarette, c'est inhaler, respirer la fumée. Alors j'ai dit, car le journalisme c'est l'art de choisir les mots, et j'ai bien choisi mes mots, bien consciemment, j'ai dit allumer une cigarette pour protester contre cette attitude patriarcale, autoritaire, et ne l'éteignez pas, car lui, le père autoritaire, omnipotent, omnipuissant, veut que vous éteigniez, car il le veut.
Vous avez évoqué Bouazizi, donc pour rappel, c'est ce jeune homme qui s'est immolé par le feu en décembre 2011 en Tunisie, et ce qui a été l'étincelle de la révolution tunisienne. Certains datent le début de la révolution à cette immolation par le
feu.
C'est ça.
Alors, cet appel avait été catégorisé comme un appel à la révolte. Comme l'article avait été, par coïncidence, avait été publié 3 jours avant de la tentative de coup d'État, alors le procureur a établi un lien entre mon article et la tentative de coup d'État. Il m'a accusé, d'abord, de donner un message subliminal dans le sens du coup d'État, d'abord faire un appel à la révolte, puis dans l'acte d'accusation, on m'a accusé de cibler directement et ouvertement le président, comme si c'était un crime. Comment un journaliste cible ? Un journaliste cible en écrivant. Et aussi, j'ai été accusé d'avoir travaillé dans cet article, de faire passer ce régime comme un régime autoritaire. Et comme si c'était un crime. Car je me suis défendu devant le tribunal. Et devant le tribunal, je leur ai dit que qualifier le régime actuel en Turquie d'autoritaire n'est pas un crime. Et en plus, déjà, je fais l'usage de ce mot depuis 2009. Je suis un des premiers journalistes qui a sonné l'alarme en Turquie. Le titre d'un de mes articles en septembre 2009 était « Nous sommes dans la voie de devenir un régime électoral autoritaire ». Ok ? Depuis 2009, je leur ai dit, depuis 2009, moi j'avertis mes téléspectateurs et mes lecteurs que le régime se transforme en un régime autoritaire en Turquie. Et je suis un critique catégorique de ça, et je suis accusé. Ça, c'est pas une accusation, c'est une fausse accusation. Ça peut pas être une accusation. La preuve de la vérité de ce que j'ai avancé comme idée, comme ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, c'est que je fais partie de ce procès en étant détenu. C'est ça la preuve que nous vivons sous un régime autoritaire. Car vous m'accusez, vous me retenez en prison à cause de ce que j'ai écrit. C'est un délit d'opinion. C'est une violation de la liberté d'expression, tout simplement. Dans toute ma défense, dans les déclarations que j'ai faites au tribunal, j'ai défendu le journalisme.
Derrière ces accusations que vous qualifiez d'absurdes, qu'est-ce qui était visé selon vous ?
Faire taire les critiques, faire taire les journalistes. Et Cumhuriyet, ils ont visé Cumhuriyet pour le finir, simplement. Ils ont peut-être réfléchi que Cumhuriyet était assez fragile et n'aurait pas pu survivre cette opération, car ils ont interpellé presque, comme je l'ai dit, toute la direction de la fondation, le rédacteur en chef. Et puis moi, j'étais conseiller du rédacteur en chef.
C'est une particularité de Cumhuriyet qui est détenue par une fondation composée majoritairement de journalistes.
Journalistes et aussi avocats, mais journalistes en fait. Cumhuriyet n'a pas de patron.
C'est le garant de son indépendance.
Oui, voilà, absolument. Et il n'est pas possible de vendre et acheter Cumhuriyet à cause de ça.
L'atelier des médias. Notre invité cette semaine est Kadri Gürsel, chroniqueur, journaliste et écrivain turc, emprisonné d'octobre 2016 à septembre 2017 à la prison de Silivri, la plus grande d'Europe, avec ses 500 000 mètres carrés répartis en 9 bâtiments. Kadri Gürsel est interrogé par Camille Lafrance.
RFI.
Est-ce que vous voulez revenir sur votre expérience derrière les barreaux, votre détention préventive, provisoire, qui finalement équivaut à votre condamnation? Comment vous avez vécu ce nouveau drame?
Bon, j'ai survécu assez bien, je crois. Mais il y a une réclusion, il y avait des limitations de droit inacceptables. Et c'était des prisons de réclusion totale. S'il faut donner des exemples, je peux vous dire qu'il était interdit pour nous de recevoir des lettres et d'écrire des lettres. Les détenus normaux ont le droit de faire un appel téléphonique de 10 minutes par semaine, tandis que nous avions le droit de faire cet appel tous les 2 semaines. On vivait dans des dortoirs à 3 personnes, qui étaient des dortoirs modernes, à 2 étages. Le premier étage, le rez-de-chaussée, on peut-on dire, c'était le milieu quotidien, où il y avait la cuisine, la douche et le WC, la table, les chaises, la télé, un réfrigérateur. Et puis, cet endroit s'ouvrait à une cour qui était à 35 mètres carrés. Donc ça veut dire 7 pas de profondeur et 5 pas de largeur, mais qui était ouvert pendant toute la journée. Et puis, il y avait le dortoir qu'on montait par un escalier. Là, il y avait des lits et des garde-robes en acier. Le chauffage marchait très bien. J'ai passé un hiver et presque un été. Il y avait l'eau qui coulait pendant 24 heures et l'eau chaude aussi qui coulait pendant 24 heures. Dans la cantine, il y avait un grand choix d'aliments et d'autres choses. On recevait les journaux, même des journaux d'opposition, comme Cumhuriyet et des journaux de gauche, de la gauche. On regardait 27 chaînes de télévision, dont parmi lesquelles il y avait aussi une chaîne de télévision opposante. Mais on ne nous laissait pas lire les publications en langue étrangère. Et dans des cas très limités, on recevait aussi des livres en langue étrangère, mais c'était très très difficile. Nos accès aux livres auparavant était très limité, après, grâce à nos efforts et notre combat, il faut dire, ça a été amélioré. Donc, on avait même le droit de retenir 10 livres pour chaque personne. Et tout était enregistré. nous étions limités à avoir deux chemises, deux pantalons et puis trois paires de chaussures. Notre droit d'accueillir nos avocats était très limité. Une heure par semaine, c'était une mesure qui nous empêchait d'avoir un procès équitable. Alors, comment on tient le coup? C'est un exercice, c'est une mesure mentale. Quand on ne réfléchit pas sur le passé, quand on s'empêche d'avoir le manque de ce qu'on aime, de ce qu'on est habitué de faire. C'est comme ça qu'on résiste contre la privation. J'ai su me protéger. Je sais comment se protéger. Je ne pensais pas au plaisir de la vie que j'ai laissé derrière. Par exemple, je fume des cigares, je fume des avanes, et je n'ai pas même réfléchi à fumer. Par exemple, je suis un fan de Galatasaray, comme j'étais privé de regarder les matchs en direct, j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. J'ai fermé cette faculté dans mon esprit.
Donc à vous intéresser à ces matchs de foot
Maintenant, je ne suis pas aussi intéressé à regarder les matchs. J'étais si fort que je me suis détruit. Car j'étais au stade depuis 93. Donc ça fait combien d'années
que vous suiviez cette équipe?
Ça fait 25 ans, 24 ans. J'étais au stade, je n'arrêtais pas un seul match. Et maintenant, après être sorti de la prison, j'ai perdu mon enthousiasme d'aller assister au match. Je ne vais pas au match maintenant. Et quand je rate un match, ça ne me donne pas de la peine. Des choses comme ça. Pour me sauvegarder, pour garder mon esprit, mon intégrité, pour me protéger des souffrances que la vie en prison pourrait m'infliger, je crée un système d'immunité.
Vous étiez trois dans votre cellule, vous étiez avec qui?
J'étais avec deux autres détenus de Jumhuriyet, le dessinateur Moussa Kart et l'éditeur du supplément du livre, Turhan Günay. J'ai passé 9 mois avec eux. Ils ont été libérés à la fin des premières audiences, alors que moi non, j'étais retenu. Et on m'a mis avec Ahmed Chouk. Ahmed Chouk qui est élu député maintenant du parti pro-kurde.
HDP.
HDP.
Et qui est aussi journaliste à Jumhuriyet et qui connaît aussi les procès en série.
Jumhuriyet, oui. Et j'ai passé encore 2 mois avec lui avant d'être relâché le 25 septembre 2017.
Vous, dans le quartier pénitentiaire dans lequel vous étiez, il n'y avait que des détenus politiques, accusés de terrorisme?
Le campus, on dit le campus à la prison de Sillivry. C'est le campus, c'est un campus géant. Il y a des prisons isolées de l'un à l'autre. 9 prisons dans ce même campus gérées d'une manière autonome. Donc il y a 9 prisons. Presque 9 différentes approches, 9 différents contenus de détenus. Vous voyez, au numéro 9, il y avait les détenus de haute valeur, comme nous. Il y avait des gulenistes, des gens accusés d'être gulenistes, mais c'était des magistrats, c'était des procureurs, donc membres de la justice, des chefs de la police, les chefs de police, et aussi des journalistes qui sont aussi été accusés de faire part d'organisations gulenistes, des députés du HDP, des détenus accusés d'être membres des organisations terroristes d'extrême gauche, des militaires de haut degré, des généraux, des préfets, des sous-préfets, des membres des familles de pouvoir qui sont eux aussi mises en prison pour être gulenistes, des politiciens, quoi encore, des hommes d'affaires, voilà, c'était ça, des journalistes et des écrivains.
Vous avez écrit dans votre dernier livre, La Turquie année zéro, le régime autoritaire qui a voilé la démocratie annonce un régime totalitaire. Donc vous allez encore plus loin maintenant.
Oui, on voit maintenant toutes sortes de tendances totalitaires en Turquie. Mais sans oublier que le régime en Turquie est à bout de souffle, de plusieurs aspects. Ça ne leur empêche pas de manifester leurs tendances totalitaires. Il y a des fortes tendances totalitaires en Turquie. Et regardez la situation des médias. L'industrie des médias en Turquie est totalement contrôlée par le régime. Hein. Totalement. Maintenant, il n'y a plus de médias de centre. Tout est contrôlé par le régime. Et les imprimeries sont contrôlées par le régime. Et aussi les compagnies de distribution. Il y a deux compagnies majeures dans la distribution. Elles sont contrôlées par le régime. Et les télévisions sont contrôlées aussi. Il y a quelques petites chaînes qui s'évadent, qui échappent le contrôle, pardon.
Des petits médias indépendants aussi.
Des petits médias indépendants.
En ligne.
Voilà. Des petits médias indépendants en ligne et quelques journaux indépendants, dont le principal est le plus important. Le principal est Cumhuriyet toujours.
Pour qui vous travaillez ?
Toute l'industrie des médias avait été saisie par le pouvoir politique et cette industrie a été vidée de son sens. Maintenant, cette industrie est mise au service du pouvoir politique et sert aux intérêts politiques du pouvoir. Et ce sont des organes de propagande politique. La médiocratie, si on peut dire, a remplacé la méritocratie. Et ceux qui travaillent pour les organes de médias du pouvoir, même s'ils sont des anciens, s'ils étaient des journalistes, des vrais journalistes auparavant, ils ne le sont plus. Car ils ne peuvent pas pratiquer leur métier. Et leur seul souci, leur seul réflexe qu'ils développent maintenant, au plan quotidien, c'est de ne pas de servir aux intérêts du pouvoir politique pour gagner leur vie. Ça, c'est un esclavage. Ils se sont trouvés transformés, c'est une mutation de journalistes en secrétaires, en propagandiste, en élément de communication.
Si vous pouviez adresser un message aux journalistes dont les médias sont tombés sous la coupe directe ou indirecte du pouvoir et qui restent en place dans ces médias en Turquie parce qu'ils ont besoin de nourrir leur famille ou parce qu'ils ne trouvent pas la force de partir, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ?
Je peux leur dire que ce n'est pas une excuse. Les raisons que ces journalistes avancent, ces journalistes qui ne sont plus journalistes, ils instrumentalisent le journalisme qui n'est plus journalisme. Ça, techniquement parlant, bon, il y a des quotidiens, mais ils ne traitent pas les infos, ils cachent les infos, ils sont les opérateurs de la censure et ils ont perdu tous leurs réflexes journalistiques. Je dis ces individus qui avancent la thèse de faire nourrir la famille, etc., sont des excuses invalides, car ils ne sont pas dans le service du peuple pour informer le peuple. Est-ce que dans le passé, ils étaient dans le service du peuple pour informer le peuple impeccablement ? Non, évidemment non. C'était une presse problématique, mais c'était une presse, c'était des médias indépendants et compétitifs. Il y avait une compétition parmi les journalistes. Maintenant, il n'y a plus de compétition. Quand il n'y a pas de compétition, parmi les journalistes, le journalisme meurt. Et quand il n'y a pas la liberté de presse et la liberté de la pensée, le journalisme meurt. Il n'est pas nécessaire de tuer les journalistes, comme certains régimes autoritaires le font. Mais il n'y a pas le terrain fertile pour le journalisme. Donc, si ça continue comme ça, pendant une dizaine d'années, comme notre génération de journalistes se disparaîtra, il n'y aura plus de, entre guillemets, des journalistes expérimentés qui auront les moyens de transférer leurs expériences aux nouveaux venus. Donc, si la Turquie retourne un jour à la démocratie, il faudra envoyer les candidats du journalisme turc à l'étranger pour qu'ils fassent leurs études. C'est une énorme perte de capacité humaine. C'est ça, un régime autoritaire, ça cause un vrai dégât au point de vue social, à la matière humaine, à la capacité humaine d'un pays.
Vous, comment vous faites dans ce contexte pour vous informer ?
Je dépends de Twitter. Je dépends de Twitter. Je fais l'usage de VPN.
Un logiciel qui permet d'accéder à des sites interdits ici.
Voilà.
Wikipédia.
Il y a beaucoup, des milliers de sites censurés, interdits en Turquie par les autorités turques. C'est très ridicule de faire l'usage de VPN pour accéder à Wikipédia, mais c'est la réalité que nous vivons. Et je regarde les médias, les premières pages des journaux pour maîtriser le sentiment, la psychologie, l'agenda du régime. Comment réagissent-ils? Quelles sont leurs approches? Quelles ont leurs politiques? C'est comme la criminologie. Hein. Pour Erdoganologie, il faut suivre au moins les premières pages et aussi regarder, jeter un coup d'œil aux chroniqueurs préférés du palais. La censure pèse plus que l'autocensure maintenant. Il y a des dizaines de journalistes dans les prisons, mais si ça continue comme ça, je crois qu'il y aura moins de journalistes dans les prisons, car les journalistes vont cesser d'exister.
La Turquie, qui selon Reporters sans frontières, est la première prison au monde maintenant pour les journalistes.
Oui. Et je crois que dans le temps, si ce régime s'établit et crée son ordre établi, que je crois que c'est impossible, mais dans le temps, comme il ne sera plus possible d'être journaliste en Turquie, il ne sera plus possible de mettre les journalistes en prison, car on détruit le terrain. Quand on tue le journalisme, il n'est plus nécessaire de tuer les journalistes. Comme ils ont tué le journalisme sans tuer les journalistes par individu, pour le moment, on est privé des conditions favorables pour vivre en effectuant le métier. Les médias indépendants se sont appauvris d'une manière dramatique. Les salaires dans les médias indépendants sont baissés à un niveau bas où les journalistes ne peuvent pas gagner leur vie.
Donc vous ne pouvez pas vivre, compter sur les chroniques de Cumhuriyet?
Non, pas du tout. Avant, je peux vivre, quand je travaillais pour le journal, pour le quotidien Milliyet, là, à Milliyet, c'était possible. Là, à l'époque, je faisais des programmes de débats télévisés en direct, dans des chaînes de télévision de masse, dans des chaînes de télévision d'information continue. Et ça nous donnait aux journalistes comme moi les moyens de gagner la vie. Donc maintenant, il n'est plus possible de gagner la vie à partir de cela.
Et vous faites comment alors ?
Ah, je dépends des ressources qui nous appartiennent. Je suis aussi retraité, techniquement parlant. Je ne suis pas un journaliste retraité, mais techniquement parlant, je suis retraité. J'ai un salaire de retraite aussi. Donc, pour le moment, ça passe comme ça, mais ce n'est pas soutenable. Et je suis déterminé de rester, mais dans ces conditions-là, même si on est un être indépendant, le régime nous a privé les droits et les moyens de gagner notre vie. Ces circonstances vous laissent le seul choix de quitter le pays, mais moi, je suis déterminé de rester en tant que moi-même en Turquie, d'effectuer mon métier dans un esprit sain et sauf.
Turquie, ils ont tué le journalisme sans tuer les journalistes. Entretien avec Kadri Gürsel, qu'il soit remercié. C'était un atelier des médias signé Camille France, réalisation Simon De Creuse, en coulisses Ziad Malouf.
İçimde kimse yok içimde.
C'était la dernière émission avant la pause estivale pour l'Atelier des médias. Nous serons toutes et tous de retour à ce micro début septembre. Salut à toutes et à tous.
Atelier@rfi.fr.